Bonjour. Notre assemblée est un peu asymétrique, hein. Il y a beaucoup de monde de ce côté, pas beaucoup de l'autre. Bon, ça fait rien, c'est pas très grave. On a des petits soucis de... projection. Bon, tant pis, on peut rester comme ça, hein. Ah, il y a un deuxième technicien qui arrive. Ah oui, bah ça. Pierre-Yves n'étant pas là, l'appareil semble un peu capricieux, mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui, nous reprenons quelque chose qu'on avait commencé il y a déjà pas mal de temps, hein, 4 semaines peut-être, quelque chose comme ça. C'est une étude sur le jugement. Alors nous nous étions posé 7 questions. Première question, la Bible annonce-t-elle un jugement? Et j'avais dans mes notes préparées, il suffit que je le retrouve, un petit résumé sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Bah, écoutez, si je ne l'ai pas, on va improviser. Tant pis. Alors, la Bible annonce-t-elle un jugement? Nous avons vu que oui, effectivement, il est annoncé souvent dans la Bible que Dieu va juger. Et pourquoi est-ce que Dieu va juger? Parce que ce jugement, c'est la manifestation de la vérité. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de cachotteries. Et la Bible dit qu'un jour, tout ce qui est caché sera révélé, tout ce qui est murmuré sera crié au grand jour. Et puis c'est aussi la manifestation de la justice. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de justice. Les gens qui souffrent, qui sont persécutés pour leur foi, mais aussi pour leur couleur de peau, pour leur provenance ethnique, soupirent et ont l'impression que leurs bourreaux, que leurs persécuteurs ne sont jamais condamnés, ne sont jamais jugés. Ça ne sera pas le cas dans l'éternité. Avant que le règne éternel ne se réalise, un jour, toute mauvaise parole, toute mauvaise pensée, toute mauvaise action trouvera un juge et sera à ce moment-là sanctionné. Nous avions... Alors, je ne sais pas si ça marche, du coup. Voilà. On va faire ça en manuel, hein. Nous étions posé la question, ensuite, qui doit nous juger? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Et nous avions vu que la Bible annonce que c'est Dieu qui juge, mais qu'il le fait par un homme... Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme. Et pourquoi c'est important que c'est Jésus qui juge? Nous avions imaginé un petit peu quelles pourraient être les doléances des hommes jugés par Dieu. Et on aurait pu dire, mais écoute, t'es bien gentil de nous juger, mais qu'est-ce que tu sais de la vie humaine? Qu'est-ce que tu sais de la faim, du froid, de la dépendance, toi qui es dans ton ciel tout puissant, alors que Jésus, un homme, a connu toutes ces péripéties de la vie humaine, toutes ces faiblesses de la vie humaine, et peut donc être apte, à la fois parce qu'il est homme et parce qu'il est juste, à nous juger. Nous avions posé la question ensuite, Charles. Voilà. Les croyants seront-ils jugés? Et là, nous nous étions gratté la tête, parce que, oui, parce que nous trouvons dans notre Bible des passages qui nous disent que les croyants ne seront pas jugés. Jésus qui dit, celui qui croit en moi ne vient pas en jugement. mais il est passé de la mort à la vie. Et puis d'autres passages qui nous dit, et qui dit à des chrétiens, c'est Paul qui écrit à une église et qui leur dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc, des passages qui nous semblaient un peu contradictoires, et nous nous étions dit que la suite de notre étude peut-être apporterait une clé à cette contradiction. Et ensuite, le quatrième point, nous nous étions posé la question, est-ce que les hommes sont jugés selon leurs œuvres ou selon leur foi en Jésus-Christ? Et j'aimerais reprendre avec vous à ce point-là. Si tu veux aller plus loin. Si c'est possible. Voilà. Vous voyez? Oui. J'ai peur qu'il faille s'en contenter pour aujourd'hui. Hein. Quand on veut modifier les réglages de l'appareil, on tombe sur un mot de passe de Pierre-Yves, et comme on ne connaît pas le mot de passe, et que Pierre-Yves est dans les Antilles, eh bien, on attendra hein, pour changer. Donc, je vous propose de reprendre ce texte. J'avais lu donc l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 28. C'est Jésus qui parle. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 28. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme, c'est-à-dire de lui-même. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui ont pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Voilà un texte qui nous parle de faire le bien, de faire le mal, et de résurrection et de jugement. On peut aller aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, où Paul nous dit, comptes-tu, verset 3, comptes-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur, à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse. Pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec ensuite, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, pour tout le monde, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Donc ces deux textes nous montrent que le jugement se fait selon les œuvres de chacun. La différence se fait entre ceux qui pratiquent le mal et ceux qui pratiquent le bien. Et voilà quelque chose qui nous étonne. Nous qui croyons, nous qui pensons, nous qui proclamons que le salut s'obtient par la grâce de Dieu et le pardon. En effet, encore une petite contradiction, espérons qu'on va les résoudre. Le même apôtre Paul, dans la même épître aux Romains, simplement 20 versets plus loin, le même chapitre, dit « Dieu déclare les hommes justes » avant il nous avait dit « c'est ceux qui pratiquent le bien » Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et de sa glorieuse présence. Et le même Paul récidive dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. » Donc, personne n'a de raison de se vanter. Alors, on a envie de lui dire, « Paul, il faudrait que tu nous expliques. Il faudrait que tu choisisses. Soit c'est par les œuvres, comme tu nous l'expliques au début de ton chapitre 2, soit c'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, par le pardon, et il faudrait que tu nous expliques ça, comment tu arrives à mettre ça ensemble. » Un petit point à souligner encore, c'est que c'est pas seulement les actes, c'est aussi les paroles qui sont concernées. Et en Matthieu 12, Jésus dit, « Je vous le dis au jugement, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. » Attention à nos paroles. Elles peuvent faire autant de mal, si ce n'est plus, que nos actes. Alors comment comprendre cette contradiction ? Je vous donne rendez-vous dans l'Apocalypse, au chapitre 20. Apocalypse, au chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Je répète cette phrase. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Les hommes sont donc bien jugés sur leurs œuvres. Mais comme leurs œuvres sont mauvaises, aux yeux de Dieu, ils sont jetés dans les temps de feu. Terrible. Heureusement, vous avez vu avec moi, il y a un autre livre qui est ouvert. Et tout au début de notre étude, évidemment, ça fait un peu loin pour ceux, je ne l'ai pas souligné aujourd'hui, mais nous avions vu que dans le jugement, il y a deux choses qui sont concernées. Il y a les personnes, et il y a ce qu'ils ont fait, leurs actes. Et là, on voit que les actes passent en jugement. Ce qui est écrit dans le livre de vie, c'est ce que les gens ont fait, ce sont leurs œuvres. Et donc les chrétiens, comme les non-chrétiens, tous passent en jugement à propos de ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui sont inscrits dans le livre de vie passent aussi en jugement. Mais quelle est la différence entre les deux ? C'est le pardon ? C'est la grâce de Dieu ? Jésus avait dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Alors je me pose la question, est-ce que mon nom, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie ? On comprend donc notre contradiction qu'on avait vue tout à l'heure, entre les passages qui nous disent que les chrétiens ne sont pas jugés et ceux qui disent qu'ils sont jugés. Oui, ils sont jugés. Leurs œuvres sont jugées. Mais ils ne sont pas condamnés puisque intervient le pardon de Dieu qui est ici manifesté par le livre de vie. Alors, je crois qu'il ne faut pas que nous ayons une vision trop matérialiste de ces images. Je ne suis pas du tout persuadé que si Jean vivait à notre époque, il aurait peut-être parlé de fichiers informatiques, peut-être marche mieux que le nôtre. Mais à son époque, quand on voulait conserver la mémoire de quelque chose, on l'écrivait dans des livres. À son époque, ce n'était même pas des livres avec des feuilles, c'était des rouleaux. Hein. Pourquoi est-ce que Dieu peut pardonner et ne pas tenir compte des œuvres mauvaises de gens comme moi, excusez-moi, comme vous, et les pardonner tout simplement parce qu'ils sont écrits dans un autre livre qui est celui du livre de vie. Eh bien, on va citer Ésaïe encore. On a parlé d'Ésaïe qui nous annonçait la naissance de Jésus, mais Ésaïe nous annonce aussi la mort de Jésus. Et il nous annonce le pourquoi de la mort. Ésaïe 53, vous connaissez tous ce passage. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà la clé de la contradiction. La clé de la contradiction, c'est que nous sommes aussi coupables que tout le monde, mais que quelqu'un a payé à notre place, et que donc nous ne sommes pas condamnés. Et ce quelqu'un qui a payé à notre place, c'est Dieu lui-même, qui apporte à la fois la condamnation, mais aussi le pardon, la solution du problème. Alors, on va s'intéresser au point suivant, à moins que vous ayez des questions. Tu nous mets le point suivant. Y a-t-il des degrés dans la culpabilité et des peines graduées ? Y a-t-il des degrés dans le salut et des sentences différentes ? Je ne sais pas, il y a des gens qui ont, parmi vous qui ont des réponses à ça ? Non, personne. Oui. Oui. Un degré dans la culpabilité. Alors, je vous invite à lire Luc, chapitre 12, Évangile de Luc. Au verset 47. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment moins rigoureux. Et puis, il y a cette phrase un peu curieuse de Jésus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, la ville coupable par excellence, c'était Sodome. Et il dit, toujours dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, il parle des villes comme Capernaum, les villes de Galilée, dans lesquelles il a marché, il a fait des miracles, et qui ne se sont pas convertis, au moins pour la plupart des gens. Et il dit cette phrase curieuse, « Je vous assure qu'au grand jour, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. » Donc ces passages semblent entraîner une certaine gradation dans la rétribution, dans le châtiment. Symétriquement, il y a la question des récompenses. Et là, je vous invite à lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Verset 10, conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, c'est toujours Paul qui parle, enfin qui écrit, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire ou sa récompense. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. On retrouve un peu l'idée qu'on avait dans l'Apocalypse tout à l'heure, d'une espèce de double critère de jugement. Il y a les œuvres, ce que les gens ont fait, et là il est clairement question des chrétiens qui ont bâti sur un fondement, Jésus-Christ, leur foi. Mais qu'avez-vous fait de votre foi? Est-ce que cette foi a été la base d'une construction? Est-ce que vous avez construit votre vie? Est-ce que nous avons construit notre vie pour être agréable, fidèle à Dieu, utile dans le plan de Dieu, sel et lumière, comme disent d'autres textes, porteur d'amour? Ou est-ce que nous avons négligé ce fondement et bâti dessus une cabane de briques et de brocs, sans soin, sans amour? Le jour du jugement jugera la qualité de notre construction. Et Paul le dit bien, la personne en question sera sauvée. Ce n'est pas de son salut dont il est question, mais c'est de la satisfaction que le Seigneur pourra retirer de ce qu'il a construit. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous, de nous rappeler que nous sommes appelé par le Seigneur à être sauvé, mais sauvé pour servir, sauvé pour bâtir quelque chose en son honneur, même si c'est faiblement. Il est bien évident que ça ne peut être qu'avec les moyens que nous avons et qui sont bien faibles, mais quand même, c'est quelque chose qui peut glorifier le Seigneur ou qui au contraire peut ne pas le glorifier. Je pense que nos vies peuvent être glorifiantes, enfin à la gloire du Seigneur, ou au contraire, elles peuvent être déshonorantes pour le Seigneur. Si on dit de nous, c'est ça un chrétien, ben ça ne me donne pas envie d'être chrétien, c'est que nous n'avons pas bâti avec les matériaux qu'il fallait. Et c'est dans ce sens-là que Paul dit au destinataire de sa lettre, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que l'œuvre de chacun soit mise en œuvre, mise en lumière plutôt. Alors, avant-dernier. Voilà. Quand le jugement va-t-il avoir lieu? J'avais donné plusieurs options. À la mort de la personne, à la résurrection, à la fin des temps. Alors, je suis sûr que vous avez des idées là. Pas d'idée ? Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez la parabole de l'ivraie, hein, où de la mauvaise herbe est semée en même temps que le blé? On trouve ça dans Matthieu 13, et il est question de la moisson, où on va faire le tri entre l'ivraie et la mauvaise herbe, et le maître, donc c'est une parabole qui parle de Dieu évidemment, le maître de la moisson qui dit attendez que tout soit poussé, hein, et il y aura la moisson, et le terme qui est employé là, c'est à l'achèvement de l'âge. On peut dire à la fin des temps, hein, à l'achèvement de l'âge. D'autres textes, par exemple, nous disent le livre de Daniel. Daniel, chapitre 12, nous dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. » Donc là, il est question d'un jugement, d'un tri, en tout cas, qui se fait au moment de la résurrection. Hein, beaucoup de ceux qui sont dans la terre se réveilleront. Et Jésus lui-même dit, Jean 5, ne vous étonnez pas, l'heure vient, on l'a déjà lu, où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui ont pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Il est donc bien question du moment de la résurrection. C'est à ce moment-là que s'exerce le jugement qu'on appelle dernier. Le jour où le Seigneur règle ses comptes, après avoir patienté longtemps. Mais, pour répondre à Gérard, il existe des anticipations de ce jugement qui montrent que pour Dieu, le temps passe pas comme pour nous. Et les choses, lui, il n'est pas esclave du temps. Il y a une première anticipation du jugement dans la mort de la personne, où on a l'impression qu'il existe déjà une espèce de préjugement, avec des textes qui nous disent « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur » Apocalypse 14, verset 13. Et de façon symétrique, pour les injustes, Dieu s'est réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Comme si déjà au moment où ils meurent, ils sont déjà étiquetés injustes. Il y a aussi l'anticipation du jugement au moment de l'offre du salut ou de l'acceptation du salut, au moment de notre conversion, au moment où nous n'étions pas croyants et où nous devenons croyants. On a lu Jean 3,16 tout à l'heure. Jean 3,36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et un peu plus loin, Jésus lui-même, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 5, dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie, comme si c'était déjà fait au moment où il croit. » Donc une certaine anticipation du jugement. La mort de Christ est une anticipation du jugement. Jésus est mort pour nos fautes, il a porté notre condamnation avant que celle-ci soit prononcée. Il y a aussi une anticipation là du jugement. Et puis, une dernière question. Est-il possible d'être sauvé si on n'a pas connu Jésus-Christ ? Parce que depuis tout à l'heure, je vous raconte que tous les hommes sont pécheurs. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul, la Bible. Et que la seule possibilité d'être sauvé, c'est de croire en Christ. Mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Alors, à votre avis, faut pas me laisser tout seul là dans ma barquette. Je crois que Jean a raison. C'est d'ailleurs une habitude chez lui, il a souvent raison. Nous avons un témoignage important. Tous les saints, tous les hommes fidèles, lisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, vous allez avoir une brochette de gens qui vous sont présentés comme des témoins fidèles du passé. Des gens qui ont vécu 1000 ans, 2000 ans, 600 ans, 800 ans avant Jésus-Christ, qui ne pouvaient donc pas connaître Jésus-Christ. Et pourtant, ils nous sont donnés en exemple. Il est difficile de penser que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donnerait en exemple des personnes qui ne seraient pas fidèles à Dieu, qui ne seraient pas sauvées. Et puis, il y a le passage de Matthieu 25, que je vous invite à lire. C'est Jésus qui parle, Matthieu 25, verset 31. Et qui est un texte que je trouve fascinant. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Jésus parle de lui, hein, le Fils de l'homme, c'est lui, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Ou étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ?» Ils tombent des nus. Mais quand est-ce qu'on a fait ça ? On ne connaît pas. Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et puis on voit symétriquement la suite du texte, où il dit à... au réprouvé, on va dire, au bouc, comme dit le texte de ce passage, les mêmes paroles, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Et les gens qui tombent aussi des nues, on dit, on ne te connaît pas, on n'a pas pu faire ça pour toi. Hein? Et il leur répond la même chose, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, au moindre de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez refusé. Retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Juste une petite parenthèse, vous vous souvenez, on en avait parlé, on avait fait une étude sur le diable. Hein? Le diable ne règne pas sur les enfers. Hein? Il n'est pas le patron, il est le premier concerné par les souffrances. Donc dans ce texte, on voit que Jésus juge des personnes qui ne le connaissent pas, qui sont très étonnées d'entendre qu'elles sont allées le voir en prison, qu'elles lui ont fait du bien. Et on voit le texte que Jésus applique, il juge de ce que ces personnes ont fait comme critère de la façon dont elles auraient réagi en face de lui. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces personnes ? Eh bien, elles ont découvert la grâce. Parce que qu'est-ce que c'est que de donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, sans lui demander, sans lui présenter la facture ? Ou de donner à manger à quelqu'un qui a faim, sans lui présenter la facture ? Ou de donner des vêtements à quelqu'un qui en a besoin, sans le lui faire payer ? C'est de la grâce. C'est ce que la Bible appelle la grâce. Ces personnes, en donnant ainsi de la grâce, ont montré qu'elles comprenaient ce qu'est la grâce de Dieu, ce qu'est le pardon de Dieu. Elles ont pu discerner ces personnes à travers la création. Vous vous souvenez, Genèse 1, créé à l'image de Dieu. Quelque part dans notre tête ou dans notre cœur, il y a l'image de Dieu. Il y a ce que Dieu veut. Alors, notre conscience peut nous guider, hein, mais aussi la contemplation de la création, la contemplation de la providence avec les saisons qui se répètent, avec Dieu qui donne à manger à toute sa création, année après année, mois après mois. Tout ça nous permet de discerner qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, et que Dieu est un Dieu qui donne, et un Dieu qui donne sans compter. Et on voit par exemple le prophète Michée qui avait discerné, Michée 7, qui dit « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes, qui pardonne les péchés du reste de ton peuple ? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, tu prends plaisir à faire grâce. » David aussi avait discerné ça. Heureux l'homme dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne compte pas, ne porte pas le péché. Alors seul Jésus pourra discerner ceux qui sont siens dans la masse des hommes. Oui ?
Les enfants, je vais dire même les bébés qui meurent.
Oui.
Alors
ça, je ne peux pas te répondre, sauf que j'ai un petit passage qui me revient, qui est une prophétie qui parle de Jésus, et qui dit que Jésus, donc c'est dans Isaïe, je pense, Jésus, donc oui, c'est dans Isaïe, c'est la naissance, c'est la prophétie de la naissance de Jésus d'une jeune fille, hein, et dans la suite de la prophétie, il est dit que Jésus, enfin, que celui qui doit venir mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, si on prend ce texte, ça veut dire qu'il y a un passage où les petits-enfants ne discernent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Et je pense que Dieu ne peut pas demander des comptes pour quelqu'un qui ne discerne pas ce qui est bien et ce qui est mal. Hein ? Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai mis des enfants sur la photo. Hein, j'ai mis des Bushmen. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Exact. Très bien, Bernard. Ça complète bien. Voilà. Sur les petites photos, j'ai voulu imager des gens qui n'avaient pas forcément eu de contact avec Jésus-Christ. Hein, des Bushmen, j'ai mis une gravure de la Chine ancienne, et puis j'ai mis des Esquimaux, enfin des Inuits, en disant que voilà, il y a des peuples qui n'ont pas forcément entendu parler de Jésus-Christ. Seul Jésus pourra discerner ceux qui sont siens au sein de la masse des hommes. La Bible n'enseigne pas, contrairement à ce que certains disent, que tout le monde sera sauvé. Et ça, je crois qu'il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Nous n'irons pas tous au paradis, n'en déplaise à Michel Delpech. Ce serait... Ah ben la dernière fois, j'ai dit Paul Naref, on m'a dit que c'est Delpech. Ouais, bon... Peu importe. Ce serait la négation de la justice de Dieu. Imaginez un royaume dans lequel votre voisin de palier, c'est Hitler. Et un Hitler non repenti, je veux dire, un Hitler plein des pensées que Hitler avait quand il était sur Terre. Est-ce que ça serait un paradis ? La justice de Dieu exige que le mal soit châtié. Elle enseigne aussi que la seule façon sûre d'être sauvé, c'est de se confier en Christ. Alors, je crois qu'il ne faut pas entretenir l'illusion et de dire autour de nous, « Oh, bah, écoutez, si vous ne faites pas trop de mal, si vous donnez à boire de temps en temps à quelqu'un, ça va suffire à Dieu. » Non, ce que nous sommes appelés à témoigner, c'est de dire, « Confiez-vous, confiez vos péchés, confiez votre vie à Jésus-Christ. Là, vous serez sauvés. » Là, c'est une promesse de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont connu Jésus et qui l'ont refusé seront condamnés. Celui qui ne croit pas, dit Jésus dans l'évangile de Jean, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On va conclure. Dernière diapo. C'est le tout petit en bas, il y a marqué conclusion. Oui, la Bible annonce un jugement, il est nécessaire donc pour établir la justice de Dieu, pour punir le mal, pour inaugurer une éternité où la justice habitera. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus dans les bénédictions ? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est Jésus qui est désigné juge par Dieu, il en a les compétences puisqu'il est homme, mais il est aussi miséricordieux, il connaît nos faiblesses, tout en étant parfaitement juste. Les œuvres des hommes seront jugées, ainsi que leurs paroles, et sur ces critères ils seront condamnés. Ceux qui croient en Christ, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, selon cela seront graciés, pardonnés, libérés, sauvés. Mettez l'adjectif que vous voulez, mais ils auront la vie. La Bible enseigne, même si c'est pour nous difficile à imaginer, une certaine gradation dans la peine des réprouvés, comme dans les récompenses des élus, et cela en fonction de leurs œuvres durant leur vie terrestre. Nulle part. Bon, passons. Le jugement a lieu à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ, après la résurrection. Peut-être des hommes qui n'ont pas connu l'Évangile, je dis bien peut-être, seront sauvés par grâce, mais notre responsabilité, c'est de faire connaître la bonne nouvelle du pardon acquis en Jésus-Christ. Et le dernier point, nous devons nous inspirer de la façon dont Dieu exerce le jugement. Nous pouvons nous mettre au diapason de sa miséricorde. Et je voudrais vous citer un dernier texte dans l'Épître de Jacques. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est ce qui doit nous inspirer dans les jugements que nous-mêmes nous sommes amenés à porter dans notre vie. Ne condamnons pas. Si nous ne voulons pas être condamnés, nous ne sommes pas là pour apporter des sanctions, du mal. Je pense qu'il doit être très très difficile d'être chrétien et d'être juge professionnellement. Je pense que ça doit être difficile. Nous sommes appelés à apporter la grâce, si possible, à la vivre et à la faire vivre autour de nous. Merci.